Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Marleix.
Bonjour.
Vous êtes officiellement le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député de l'Eure. Enfin, président du groupe Les Républicains, je voudrais savoir de quel groupe ? Celui des 61, celui des 19 qui ont voté la motion.
D'un groupe qui considérait majoritairement que cette réforme des retraites est nécessaire. Mais effectivement, une réforme de retraite qui n'a pas convaincu la totalité de nos députés, de même qu'elle a radicalisé beaucoup de gens dans le pays et beaucoup d'autres parlementaires à l'Assemblée nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été très bien préparée, qu'elle n'est pas parue comme très cohérente aux yeux des Français par rapport à ce que le président Macron lui-même en disait il y a 3 ans. Donc tout ça crée beaucoup d'incompréhension.
Mais vous avez presque, j'ai eu l'impression qu'à un moment vous alliez dire qu'il a radicalisé certains de nos députés. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre?
Dans l'Assemblée nationale, même dans la majorité. La majorité ne faisait pas le plein, sinon il n'y aurait pas eu de difficulté pour son adoption. Oui, cette réforme n'a pas été merveilleusement bien préparée. On ne peut pas dire que le président de la République soit un champion du dialogue social.
Et vous, les Républicains, ils étaient bien préparés ? Vous avez été pris de court quand même. 19 de vos députés qui ont voté contre le gouvernement pour la motion de censure.
Oui, c'est ceux qui étaient contre la réforme de retraite. En réalité, c'est pas totalement une surprise. Donc,
crois vos mots à vous, week-end dernier, vous vous adressiez notamment au journal L'Express et vous évoquiez 6 à 7 de vos députés qui allaient voter la motion. Donc vous-même, vous avez été pris de court quand même.
Oui, mais une fois encore, c'est pas non plus totalement une surprise. C'est ceux qui étaient contre la réforme. Vous savez, sur une réforme, il y a 2 choses qui comptent. Il y a le fond de la réforme. Les Républicains étaient favorables à l'allongement de la durée du temps de travail. Parce qu'il faut pas raconter d'histoire. Le problème de ce pays, c'est son déclassement. Bon, on est le 25e pays au monde aujourd'hui en termes de production de richesse par habitant. C'est un appauvrissement de la France et des Français. Il faut pas raconter d'histoire aux Français comme le fait Madame Le Pen. On ne redressera pas ce pays si on ne travaille pas tous un peu plus. Ça, c'est le fond. Et c'est la conviction que nous avons exprimée majoritairement. Enfin, on n'a pas pu voter. Mais en tout cas, que les sénateurs ont exprimé. Et puis après, il y a la méthode. Et ça, la méthode, c'est totalement la responsabilité du gouvernement. Effectivement, un président qui a lui-même critiqué cette idée du recul de l'âge il y a pas si longtemps. Tout ça fait que c'est incompréhensible pour beaucoup de nos compatriotes. Il y a eu une absence totale de dialogue social, de respect pour les partenaires sociaux, y compris des gens qui étaient plutôt un peu compréhensifs potentiellement. Je vous rappelle que vous avez 2 organisations syndicales très importantes qui ont signé, s'agissant de retraites complémentaires, un accord dans lequel ils retirent, si vous partez à l'âge légal, vous avez moins 10% pendant 2 ans. Et en revanche, si vous attendez 64 ans, vous avez plus 10%. Cet accord, il signifie bien que pour ces organisations syndicales, le bon âge de départ, il est peut-être un peu plus loin que les 62 ans. Bon, eh bien, le président a réussi à les radicaliser par ce manque de dialogue social, mais pas juste à la veille de cette réforme, depuis 6 ans.
Elle est compliquée quand même, votre position, Olivier Marleix. On va revenir concrètement aussi sur ce qui se passe dans le pays depuis plusieurs jours, et en particulier cette nuit, sur la question désormais de la suite de la mobilisation, sur la question aussi du sort des 19 députés, les Républicains qui ont voté contre ce gouvernement. Mais vous, votre position, on le sent, elle est compliquée, parce que cette réforme, finalement, vous la souhaitiez, et en même temps, aujourd'hui, vous critiquez le gouvernement, vous critiquez le président. Comment faire pour trouver votre place ? Elle est où, la droite, aujourd'hui ?
Écoutez, en tout cas, elle a affirmé des convictions, une fois encore, majoritairement. On a été au rendez-vous de nos convictions. C'est pas effectivement une situation extrêmement confortable que de devoir, alors que vous êtes un groupe d'opposition, assumer une réforme qui n'est pas exactement la vôtre, qui n'a pas été négociée, préparée comme vous l'auriez fait. Mais il y a un moment, on doit prendre ses responsabilités. On est au pied du mur quand on est député, et on doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on est prêt à mentir aux Français? Bon, vous savez, je pense que Madame Le Pen a raté une immense occasion. Là, elle est très heureuse, elle pavoise, elle se présente en grande opposante, mais je pense qu'elle a raté une grande occasion d'être au rendez-vous et d'être une femme d'État, quoi. Elle a dit tout et son contraire sur le sujet de la réforme des retraites, Madame Le Pen. Elle a fait 2 élections présidentielles en nous expliquant aux Français que le bon âge de départ, c'était 60 ans. Puis maintenant, finalement, elle dit que non, 62 ans, c'est bien. Et puis que si un jour elle est élue, elle reviendra dessus. Mais personne ne peut la croire. Personne ne peut la croire.
Vous ne pensez pas une seule seconde que qui que ce soit reviendra sur cette loi ?
Bien sûr. Je pense
elle
que
est, ça y est, elle est adoptée.
Personne ne reviendra dessus, sauf peut-être M. Mélenchon. Mais autrement, je pense que personne de sérieux ne reviendra dessus.
Olivier Marleix, je reviens quand même à ma question. Vous dites, nous sommes en responsabilité. Nous avons évidemment une position un peu inconfortable de devoir soutenir une loi qui n'est pas 100% la nôtre. Mais je vous repose la question. Il y en a quand même 19 de vos députés qui ont voté la motion de censure. Sont-ils encore, ce matin, au moment où on se parle, parmi vos troupes? Est-ce que vous dirigez un groupe cohérent? Est-ce que les 61 restent un groupe cohérent? Ou est-ce que vous vous dites, bah non, il n'y en a plus que 42, les 19 autres, ils sortent?
Non, sincèrement, moi, je ne peux pas en vouloir. Je respecte les convictions de chacun de mes collègues. Je ne peux pas leur en vouloir. Je comprends parfaitement que je n'ai pas envie d'assumer une réforme qui a été, malgré tout, portée par Emmanuel Macron. Nous sommes des députés d'opposition. Voilà, chacun exerce son mandat, ils votent en responsabilité. Je n'ai pas à leur jeter la pierre.
Ils ont donc encore toute leur
limite
place.
Pour moi, c'est des gens qui changent d'avis trop régulièrement, qui manqueraient un peu de loyauté au collectif, mais c'est pas le cas. Je ne citerai pas de nom.
Oh, j'imagine qu'il y en a, sinon vous ne diriez pas cela, vous lancez un message visiblement.
Je pense que c'est pas le cas de la plupart des députés qui votent en conviction, et je les respecte.
Vous pensez à Aurélien Pradier, quoi?
Non, je ne dis pas de nom.
61 reste donc, puisque les 19 ne seront pas exclus. À aucun moment, vous ne les pointez du doigt.
Non, une fois encore.
Vous respectez leur choix.
Je respecte leur choix. Ils ont considéré que ça avait trop manqué de que la forme elle comptait aussi, et que cette réforme elle avait trop manqué de dialogue social, de respect de tout le monde. Pour votre côté, je le comprends. Voilà, je regrette effectivement qu'on n'ait pas donné un visage uni. Je comprends que ça puisse dérouter nos électeurs, mais je respecte le choix de.
Vous avez hésité vous-même?
Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai agi vraiment en conviction. Je pense que
vous n'avez pas hésité une seule seconde à démettre le gouvernement.
Non, j'ai les mêmes pressions dans ma circonscription de gens. Mais d'ailleurs, en fait, il y a deux types de gens. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui sont le plus proches de la retraite, en réalité, c'est eux qui vous en parlent. Ceux qui disent, moi, je vais devoir faire 6 mois de plus, 1 an de plus. Donc, je suis.
Ceux qui voyaient la ligne d'arrivée et on leur dit qu'elle va être repoussée.
Oui. En revanche, tous les gens qui ont 50 ans, ils savent que de toute façon, avec la réforme Touraine, devront déjà aller jusqu'à 64 ans, 65 ans, peut-être plus, mais souvent plus d'ailleurs. Donc en réalité, c'est les gens qui étaient les plus proches qui vous en parlent souvent de manière beaucoup plus modérée que ce qu'on voit des manifestants qui sont aujourd'hui des casseurs dans les rues de Paris.
On va revenir sur les manifestants, mais je voudrais rester sur la page politique. Vous avez dit hier à la tribune de l'Assemblée nationale, soyons clairs, le problème n'est pas la réforme des retraites, mais le président de la République. Il s'exprimera demain, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous en attendez?
Un peu de compréhension à l'égard de la vie des Français. Le président de la République a une présidence, depuis, je crois, que la réforme paye, une présidence éloignée, souvent perçue comme arrogante. Un président de la République qui finalement était totalement inexpérimenté quand il a été élu, inexpérimenté et un peu inentouré. Et donc, un exercice totalement isolé du pouvoir et souvent arrogant. Est-ce que ça peut changer? Je ne sais pas, c'est à lui, en tout cas, qui appartient la réponse. Pour moi, il ne peut pas faire évidemment comme s'il ne se passait rien. Il y a une crise dans le pays qui est assez profonde, qui est à la fois une crise de confiance politique, une crise sociale qui a des fondements vraiment économiques. L'inflation qui aujourd'hui touche un peu plus évidemment les gens qui ont les revenus les plus modestes. Et que sur les produits alimentaires, on a des hausses de l'ordre de 14%, qui est même plus importante sur tous les ce qu'on appelle les premiers prix, les produits de marque, où on parle de 20% d'augmentation.
Vous regrettez le timing? Vous regrettez que cette réforme, elle ait pris place maintenant?
Oui, ça fait
dans un moment
choses,
où les Français sont épuisés.
Ça fait vraiment partie des choses qu'on peut regretter. Le président de la République a eu 6 ans pour faire cette réforme. Il attend un moment qui est celui, effectivement, où les Français sont frappés par l'inflation. Beaucoup d'entre eux ont des fins de mois difficiles. Pour mettre ça sur la table, ça me paraît pas très le meilleur moment. Et puis doit aussi reprendre l'initiative avec les partenaires sociaux. Cette réforme des retraites, elle a montré, elle a mis le doigt sur beaucoup de sujets douloureux dans la vie des gens, des sujets compliqués. Mais les retraites, ça peut pas tout réparer. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'anticiper. Il y a la question, par exemple, dont on a à peine eu le temps de parler à l'Assemblée nationale, la question de comment on conjugue mieux pour les femmes, une vie de travail et une vie de mère de famille. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est compliqué. On sait que le gain à travailler, il n'est pas substantiel par rapport à celui de renoncer à son travail et à s'occuper de ses enfants. Donc là, on a un vrai sujet. Il faut le régler sur la question du déroulement des carrières. La question de la pénibilité, ce n'est que le résultat de cette situation. Il y a des gens qui font des métiers difficiles. Bon, on n'attend pas qu'ils soient à l'âge de la retraite, qu'ils soient cassés pour trouver une évolution de carrière.
Vous espérez éventuellement qu'Emmanuel Macron tienne compte de ça, qu'il renoue le dialogue avec les partenaires sociaux. Vous l'espérez ? Est-ce que vous y croyez ?
Et je pense qu'avec les partenaires sociaux, c'est faisable. Oui, il faut qu'il fasse un
peu... Et avec le pays ?
Il doit faire amende honorable. Écoutez, c'est sa responsabilité.
Et la vôtre, c'est laquelle ?
Je me pose vraiment la question de votre rôle. Il faut l'espérer, parce que sinon, c'est l'avertissement que j'ai lancé hier, il n'ira pas au terme de son mandat. Donc c'est aussi simple que ça.
Ça veut dire quoi, ne pas aller au terme de son mandat ? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher ?
C'est que la crise politique, effectivement, est importante. Elle est là, elle est latente, elle s'exprime avec plus ou moins de virulence.
Mais comment pourrait-il être renversé ?
Après, il peut y avoir un enchaînement de rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a des armes constitutionnelles. Il peut faire un remaniement. Il peut dissoudre.
Vous auriez souhaité qu'il le fasse ? C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac en son temps.
Moi, je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, dans l'état de fracturation du pays, l'Assemblée nationale qui en ressortirait serait pire que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec notamment une chance pour.
Ça veut dire quoi, pire ?
Pire, mais c'est-à-dire que vous auriez encore plus d'extrême gauche et un peu plus d'extrême droite. Et donc, au total,
et
le pays serait...
un peu moins de LR, vraisemblablement, selon toutes les
non, prévisions. Non, les sondages montrent qu'on restera à peu près au même niveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous auriez plus de députés RN et plus de députés d'extrême gauche. Donc le pays serait encore plus...
Donc il ne faut pas dissoudre, en tout cas pas dissoudre maintenant.
Donc on est... Il peut le faire, moi ça ne me dérange pas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, il faut qu'il ait une réponse à la hauteur des attentes.
Et sur le remaniement,
ça risque de devenir très compliqué.
Et sur le remaniement, est-ce que vous estimez qu'à 9 voix près, Elisabeth Borne est toujours légitime ?
Encore, c'est au président de la République qui appartient à cette décision. Dans l'Assemblée actuelle, on sait qu'il n'y a pas de majorité. Donc on sait effectivement que les résultats sont forcément serrés. La République a été votée à une voix, ne l'oublions pas. Donc voilà, que ce soit à 9 voix ou à 20 voix, tout ça en réalité ne change pas grand-chose.
Mais Olivier Marleix, quel est votre rôle à vous, les Républicains ? Est-ce que vous allez être complice ou opposition ? Est-ce qu'il faut, comme l'a suggéré quelqu'un comme Rachida Dati, comme l'avait suggéré Nicolas Sarkozy en son temps, un véritable accord de gouvernement ? Dans ce cas-là, j'imagine que les 19 qui ont voté contre le gouvernement actuel ne vous suivraient pas. Quelle va être votre position ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Notre position, elle est la même depuis le départ. On n'a pas d'accord de gouvernement avec le président de la République.
Vous l'avez dit, Rachida Dati ?
On ne veut rien avoir. Bon, je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est la position qu'ont exprimée le groupe très majoritairement le groupe des députés Les Républicains au premier jour de cette mandature. Aujourd'hui, on a une pièce politique qui a été inventée, écrite par le président de la République, qui a consisté à fracturer le pays en trois. Et à pousser les électeurs de gauche dans les bras de
l'extrême
gauche.
Mais vous êtes où, vous, dans ce...
Je vais vous expliquer. À pousser les électeurs de gauche dans les bras de M. Mélenchon et de l'extrême gauche, à pousser les électeurs de droite dans les bras du Rassemblement National pour se poser, lui, en acteur central du jeu. Pour moi, les trois sont les trois acteurs de la même pièce et jouent un jeu mortifère pour le pays. Je ne peux pas me résoudre à ce que demain, l'alternative à M. Macron, ce soit M. Mélenchon, soit Mme Le Pen. Donc les Républicains doivent rester totalement autonomes, indépendants.
Donc en fait,
sur leurs convictions. C'est ce que nous faisons. On n'est pas spectateurs, au contraire.
Il y a trois groupes, et vous regardez cette pièce qui est en train d'être jouée sous vos yeux.
Non, c'est exactement l'inverse, puisque c'est nous qui permettons que les textes, depuis le début de cette mandature, soient adoptés ou ne le soient pas. C'est la responsabilité dans laquelle on a été placé par les Français dans cette Assemblée nationale, et nous l'assumons parfaitement.
Vous l'assumez, vous estimez donc que la Première Ministre, en tout cas pour l'instant, reste légitime, même si à terme, vous utilisez quand même les mots de remaniement ou de dissolution. Pendant ce temps-là, la rue s'enflamme. Cette nuit, il y a eu encore 234 interpellations uniquement sur la ville de Paris, mais il y a eu des échauffourées à peu près partout dans les grandes villes de France. Quelle suite à donner à cela ? Comment réussir à apaiser ? Est-ce que vous avez le sentiment que la violence est une réponse directe, une forme de responsabilité aussi à ce qui s'est passé à l'Assemblée ?
Je pense que c'est une autre illustration de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une extrême gauche qui est très forte dans le pays. C'est une fois encore un peu le produit de cette radicalisation voulue par le président de la République. Je le dis très clairement, il a une responsabilité dans cette radicalisation du débat politique dans notre pays, à pousser les Français dans les extrêmes pour se poser en garant d'une espèce de protecteur d'un bloc central. Ce jeu-là, il est détestable. Mais aujourd'hui, on a une radicalisation, on a une extrême gauche qui est de plus en plus violente, de plus en plus radicale. Elle l'est dans un comportement tout à fait scandaleux à l'Assemblée nationale, quand elle empêche les débats à l'Assemblée nationale, et elle l'a dans la rue. C'est pour ça aussi qu'il était hors de question, à mes yeux, de nous engager sur une motion de censure, au-delà de la question des
convictions. Et là, vous parlez, quand vous dites « nous », on entend les 42, pas les 19. C'est ça qui, à chaque fois, je suis obligée de faire une sorte de mécanique mentale. Vous dites « nous », mais je ne peux pas entendre le groupe républicain, puisqu'il est pratiquement un tiers, deux tiers.
En tout cas, les deux tiers qui n'ont pas voté la motion de censure, pour nous, il est hors de question de s'associer à cette extrême gauche qui combat, qui a un vrai projet. Mélenchon,
enfin, vous pointez du doigt la NUPES, mais enfin, cette motion de censure, hier, elle était portée par Charles de Courson, qui a longtemps été plutôt un de vos alliés.
Monsieur de Courson, qui s'est prêté en alibi d'un mariage contre nature et de noces un peu sordide entre l'extrême gauche et le Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle le plus glorieux qu'ait joué Monsieur de Courson dans sa vie.
Les militants, les grévistes qui disent ne pas vouloir du tout calmer le jeu. J'étais ce matin sur RMC avec l'un des responsables de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. Les raffineries, non seulement jusqu'à présent, avaient fermé les dépôts, mais désormais, et depuis cette nuit, certaines d'entre elles ont carrément arrêté la production. Ça veut dire que ça monte crescendo et ils disent qu'ils n'arrêteront que si le texte est retiré. Deux questions. Un, est-ce que vous vous dites, au fond, Chirac l'avait fait, c'est-à-dire une loi qui avait été adoptée mais pas promulguée? Est-ce que c'est jouable? Et deux, est-ce que vous êtes plutôt pour les réquisitions?
Non, évidemment, le président de la République ne doit pas reculer sur ce texte, cette réforme, qui, une fois encore, est nécessaire pour la consolidation de notre régime de retraite. Je vous rappelle qu'il y a quand même des gains, gains importants qu'on a obtenus, c'est la revalorisation pour 1,8 million de retraités aux retraites les plus modestes, qui auront une revalorisation de 670 € par an. Ça représente une grosse cinquantaine d'euros par mois. Pour des gens qui ont 900 € de retraite en moyenne, je pense que c'est quelque chose qui est attendu. Donc on ne peut pas reculer.
Vous ne souhaitez pas qu'il recule.
On ne peut pas reculer sur cette réforme. C'est pour moi très clair. Il doit reprendre le dialogue social avec les partenaires sociaux qui sont capables de dialoguer, qui sont dans le champ du dialogue social. C'est une responsabilité pour le président de la République. Et en revanche, évidemment, il ne doit pas laisser bloquer le pays. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de ne pas aller au travail.
Donc il faut réquisitionner. Ça a été le cas dans une des raffineries de Normandie, une autre des Bouches-du-Rhône.
Bien sûr, et ne pas laisser les Français être pris en otage par les gens les plus radicaux.
Olivier Marleix, dans votre groupe, certains, alors une députée notamment, aurait dit de manière anonyme à nos confrères du Parisien, qu'elle avait subi des pressions et même une sorte de convoitise de la part de Bercy, qui aurait suggéré qu'ils allaient rajouter des budgets, de projets dans sa circonscription. Alors depuis, elle a fait machine arrière, semble-t-il, mais enfin, à l'époque, elle a laissé quasiment entendre qu'il s'agissait de corruption, mot qu'a utilisé d'ailleurs Marine Le Pen pour en parler. Jean-Luc Mélenchon lui dénonce une pression sur les élus, il demande une commission d'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? En vrai, il s'est passé quoi?
Non, écoutez, je ne crois pas un mot. Je crois que Bruno Le Maire a démenti cette histoire. Non, tout ça, vous pourriez évoquer ce qu'a dit aussi Aurore Berger, qui me paraît totalement extravagant. Je pense qu'il faut que Aurore Berger s'explique ou s'excuse.
S'explique ou s'excuse?
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle a laissé entendre qu'il y aurait une forme
des choses tout à fait.
De clientélisme,
des tentatives de.
De marchandage
qui me paraissent totalement invraisemblables.
Donc non, il ne s'est rien passé de la sorte.
Et c'est totalement irresponsable de la part de Madame Berger de laisser entendre que ce genre de choses pourrait exister. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout de suite, les compères, Le Pen, Mélenchon se ruent là-dessus. Et donc, c'est tout à fait. Il faut que.
Elle a jeté l'opprobre sur la probité de vos députés, Aurore Berger.
Oui, c'est une fois encore, il faut qu'elle s'explique ou qu'elle s'excuse.
En tout cas, vous nous le dites ce matin, rien de cela ne s'est passé. En tout cas, vous n'en avez jamais eu vent. Non, à aucun moment, les députés de votre groupe ne sont venus vous voir en vous disant j'ai reçu un coup de fil de Bruno Le Maire ou j'ai reçu un coup de fil de Bercy.
Je conçois encore moins que certains, comme le raconte Madame Berger, se soient prêtés à des marchandages. Tout ça me paraît totalement extravagant.
Elle a laissé entendre, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément eu l'information, Aurore Berger, que certains de vos députés auraient demandé des contournements d'autoroutes, c'est-à-dire vraiment des marchandages de bouts de portions d'autoroutes en échange du fait de ne pas voter la motion de censure. Autre question sur l'avenir de votre parti, là pour le coup et pas juste de votre groupe. Est-ce que vous estimez qu'un homme silencieux, en retrait, presque tapis dans l'ombre, dans ce moment de crise majeure, peut vraiment prétendre ensuite diriger le pays ?
Je vois pas du tout de qui vous parlez.
Ah non, pas du tout. Mais alors vraiment, je vois, vous avez l'air Laurent Wauquiez, bien sûr.
Non, mais je pense que Laurent s'est exprimé sur le sujet. Je crois qu'il a dit
vraiment du bout des lèvres au mois de janvier sur un bout de table. Enfin, à aucun moment il n'a accepté. D'ailleurs, je peux le redire ici. Hein, il est invité quand il le souhaite pour s'exprimer. J'imagine que mes confrères font de même. Il refuse systématiquement.
Oui, je crois que son choix c'est celui de ne pas avoir à commenter la vie politique au quotidien. Ce pays, il aura besoin, au terme du quinquennat de M. Macron, il aura franchement besoin d'être vraiment reconstruit. Je crois qu'il faudra vraiment prendre de la distance sur tout ce qui s'est fait ces dernières années. Il y a un pacte social qui est en lambeaux. Enfin, le pays est totalement fracturé. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Et il faudra reconstruire.
Avec Laurent Wauquiez, il peut se taire d'ici là, ça vous paraît acceptable?
De recul pour le faire. C'est le chemin que souhaite emprunter Laurent Wauquiez. Je souhaite que ce soit le bon.
Olivier Marleix, merci à vous d'être venu ce matin. Toujours président donc du groupe Les Républicains, qui porte toujours 61 députés, puisque vous l'avez dit, vous n'exclurez en rien les 19 qui ont voté la motion de censure. Merci à vous. Il est 8h54.